Vous écoutez, on lit pour vous.
Les médias face au pire. Un texte de Kev Lambert, paru le 9 avril 2025 dans la presse. Ces dernières années, nous avons vu l'extrême droite s'imposer comme proposition politique dans la plupart des sociétés occidentales, aux États-Unis en particulier ces derniers mois. Cette montée de l'extrême droite a besoin de ce que Michel Foucault nomme des conditions d'émergence pour apparaître. L'écosystème social doit offrir les nutriments nécessaires pour que ces idées germent et prennent racine. Ce vent hostile qui souffle nous charge d'un devoir. Comprendre ce qui a pu laisser ces idées auparavant marginales se présenter comme acceptables. Mon expérience en analyse de textes et de discours me permet de réfléchir aux effets de certaines formes et de certains propos sur la société. Les médias ne sont certainement pas les seuls vecteurs d'idées d'extrême droite qui reposent sur un vaste et solide réseau en ligne. Mais, comme lieu de diffusion des idées animant nos sociétés, ils ont certainement un rôle à jouer. Mon but n'est pas de lancer des tomates ni de culpabiliser qui que ce soit. Sans le journalisme et le reportage, l'inquiétant glissement auquel on assiste et qu'alimente les algorithmes serait encore plus prononcé. Mais les médias ne devraient pas être exclus d'une réflexion sur le processus de normalisation de certaines idées dans la réémergence contemporaine de l'extrême droite. 1. La puissance de la bullshit. Pour comprendre la fulgurante montée des discours d'extrême droite, il faut s'interroger sur l'efficacité de ces passions. Cette doctrine radicale repose sur des émotions primaires, en particulier la peur et la haine dirigées envers des groupes précaires ou minoritaires, les personnes trans, les juifs, les musulmans, les woke, etc. Pour produire ces émotions, des événements anecdotiques ou faux peuvent être amplifiés et instrumentalisés. La chroniqueuse Vanessa Destinée parlait récemment sur ses réseaux de la loi de Brandolini. Le principe de l'asymétrie de la bullshit est simple. Réfuter une idée fausse demande beaucoup plus de temps et d'énergie que de véhiculer cette idée. Face au mensonge, boosté de haine, la nuance, la justesse, la distinction perdent au change. C'est mathématique. Pour cette raison, les idées d'extrême droite doivent être manipulées avec plus de précision. Ce sont des bactéries toujours prêtes à sauter de leur boîte de Petri pour se répandre et contaminer le discours social. 2. Les limites du both-sidisme. Le fait de présenter les deux côtés, comme le font souvent les médias, ne suffit pas toujours. D'abord, parce qu'il y a rarement seulement deux côtés à un phénomène social. Ensuite, en présentant deux points de vue opposés sur un sujet, les médias courent le risque de légitimer des perspectives dangereuses qui défendent, par exemple, la perte de droits et libertés, le statu quo inégalitaire ou la violence envers certains groupes. Même bien intentionné, la recherche de l'équilibre des points de vue conduit parfois à présenter l'existence de toute une population comme un sujet dont on peut débattre. Adopter une position pour ou contre par rapport à l'existence même d'une catégorie minoritaire de la population ne devrait jamais être toléré. Donner la parole dans le cadre d'un débat ou d'un article, à des idées fallacieuses ou haineuses légitimes, ces idées en leur prêtant une crédibilité, surtout lorsqu'elles sont placées aux côtés de sources fiables, des chercheurs universitaires, par exemple. Comme certains journalistes anglo-saxons le résument, si quelqu'un dit qu'il pleut et qu'une autre personne dit qu'il ne pleut pas, le rôle d'un journaliste n'est pas de les citer tous les deux. Son rôle, c'est de regarder par la fenêtre pour dire le temps qu'il fait. 3. l'effet porte-voix. Dire le temps qu'il fait oblige aussi parfois à prendre du recul face au jeu de ping-pong propre au parlementarisme. Dans les médias, beaucoup d'énergie et de temps sont dépensés pour couvrir les déclarations des élus, qui ne se privent d'ailleurs pas de diffuser directement leurs messages sur les réseaux sociaux avec les conseils calculés de leurs stratèges. Cela peut produire un effet malencontreux. La réalité sociale nous parvient souvent par le prisme de politiciens, même si ceux-ci déforment la réalité empirique. La couverture des tirs croisés d'élus peut ainsi favoriser la circulation des idées fausses qui, peu importe leur couleur politique, peuvent stigmatiser certains groupes, normaliser les inégalités sociales ou nourrir des fantasmes mortifères. Par exemple, quand un élu attribue aux nouveaux arrivants tous les maux d'une société, il contribue à justifier le sentiment de ceux qui croient que ces immigrants représentent une menace. Peu importe que ces déclarations soient démenties ou nuancées dans la deuxième partie d'un reportage, les gros titres auront fait leur travail de sape. Bien sûr, les médias ont pour rôle de faire état des idées que mettent de l'avant les élus, mais un titre qui met en valeur une idée hostile et fausse peut faire des dommages graves. 4. L'empire de l'opinion. Certains textes d'opinion ont une double fonction délicate. Informer tout en commentant l'information apportée. Du point de vue du public, cette double charge peut biaiser les nouvelles concernées, qui ne lui parviennent plus de manière neutre et complète. Des biais raciaux, de genre ou de classe transparaissent fréquemment dans les textes de commentateurs, souvent issus des mêmes milieux sociaux. Ces biais m'apparaissent évidents quand il s'agit d'économie. Les intérêts des riches sont défendus avec plus de vigueur que ceux des pauvres. Certains groupes, comme les Premières Nations, voient leur réalité peu ou mal présentée dans certains médias. Le fait de publier à répétition des chroniques alarmistes au sujet de certaines communautés a aussi pour effet d'alimenter des préjugés envers elles. Cette répétition donne du gaz à des anxiétés discriminatoires et à des groupes extrémistes qui luttent contre l'existence même des personnes visées. En outre, la gauche, marxiste, socialiste, anarchiste, décoloniale, queer, etc., est très peu présente dans les pages d'opinion. Bien sûr, des idées diversifiées méritent de coexister dans les médias, mais la balance penche trop souvent du même côté. 5. Ce qu'on ne lit pas assez. Les idées liberticides qui alimentent l'extrême droite naissent de sociétés inégalitaires au filet social abîmé. Sur les ondes de France Culture, l'historien Johann Chapoutot explique que cette doctrine politique ne propose aucune modification de l'ordre social. Les élites économiques demeurent en place, continuent de s'enrichir et la colère des dépossédés est orientée vers des boucs émissaires. Les médias doivent-ils contribuer, même involontairement, à cette division qui profite aux élites? Comme l'écrit la poète Marie-Hélène Gay, nos sociétés ont plus que jamais besoin de médias qui nomment les systèmes d'oppression, qui s'opposent clairement et vigoureusement à la montée de la haine, qui cherchent des solutions concrètes aux inégalités et qui prennent au sérieux la responsabilité morale de raconter le monde. À mes yeux, c'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que l'extrême droite? Il n'existe pas de définition unanime de l'extrême droite. Nombre d'observateurs s'entendent sur un critère principal qui permet de l'identifier, soit un discours selon lequel le groupe ethnique majoritaire d'une société se dit menacé de l'intérieur, par les minorités, le wokisme, etc., ou de l'extérieur, par l'immigration, par exemple. Un discours d'extrême droite comporte aussi la majorité des caractéristiques suivantes. Valorisation exacerbée de l'identité nationale historique ou de la société ancienne et traditionnelle. Rejet, par principe, de toute forme de progressisme. Tendance à l'autoritarisme ou à la valorisation d'un leader politique fort. Aversion à l'égard des contre-pouvoirs, aversion envers les droits des minorités, tendance à ne pas toujours respecter les règles du jeu démocratique et les institutions. Cela peut aller jusqu'à l'incitation à la violence, mais pas obligatoirement. C'était « Les médias face au pire », un texte de Kev Lambert, paru le 9 avril 2025 dans La Presse.
Comprendre les origines du chemsex pour moins juger. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 25 mars 2025 dans le magazine Fugue. Intervenant dédié aux enjeux du chemsex à la clinique médicale urbaine du Quartier Latin, Daniel Jonathan Laroche plaide pour un retour aux sources du phénomène pour apaiser les jugements. Dans quel contexte as-tu accumulé une compréhension du chemsex? J'ai eu mes propres expériences pendant plusieurs années avec le chemsex dans ma vie personnelle. Un jour, j'ai dû faire du travail sur moi-même et des changements. J'ai commencé à faire du bénévolat, ce qui m'a amené à faire de l'intervention dans le milieu communautaire. Depuis l'été 2024, je travaille comme intervenant à la clinique du Quartier Latin. En quoi consiste le programme de chemsex? On veut offrir à la communauté un service de soutien. Très souvent, les services dans le système de santé sont moins adaptés pour la clientèle de GBH-ARSA, gays, bisexuels, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Les professionnels ne les comprennent pas toujours. Bref, on les accompagne en fonction de ce qu'ils veulent faire. Simplement en parler en profitant d'une écoute pleine de compréhension, réduire leur consommation ou entamer un cheminement pour arrêter complètement. Quel est l'impact du chemsex sur l'épidémie de VIH dans la communauté? Je n'évolue pas en recherche, alors je n'ai pas les données exactes, mais on observe une augmentation certaine. Selon les chiffres de la Direction régionale de la santé publique de Montréal, en 2022, on observait une hausse du VIH dans la communauté. Il y a également une hausse importante de la consommation. La pandémie a fait beaucoup de tort à la santé mentale et beaucoup de gens se sont tournés vers la consommation, ce qui peut entraîner une hausse de pratiques sexuelles non protégées et de plus grands risques de transmission du VIH. Également, il y avait moins de services de soutien réguliers pendant la pandémie et certaines personnes sont devenues moins enclines à prendre leur PrEP. Les gens se sont un peu déresponsabilisés, ce qui fait écho à tout le reste. La santé mentale, l'isolement, la sexualité qui sert à compenser quand on ne va pas bien, etc. En 2025, quels sont les plus grands enjeux en matière de prévention? Il n'y a pas d'investissement des gouvernements en prévention. Au Québec, on essaie de guérir, mais on ne prévient pas. Aussi, il y a beaucoup de stigmatisation envers le crystal meth. Je comprends que c'est une drogue beaucoup plus forte que les autres et qui fait des ravages souvent plus rapidement que les autres. Mais plus on la stigmatise, moins les gens vont en parler. C'est ça le plus gros danger. Je dirais aussi que lorsqu'on retrouve dans notre environnement des personnes qui ont besoin de soutien, on est parfois moins porté à vouloir leur offrir, car ça nous affecte directement. On a parfois tendance à prendre nos distances des personnes qui consomment et qui auraient besoin de notre aide. Peut-on avoir une consommation responsable? C'est possible, mais ce n'est pas tout le monde qui peut y arriver. Ça dépend de la substance qu'on consomme. Les plus associés au chemsex sont le crystal meth, le GHB et la kétamine. Les gens qui consomment les deux dernières, sans cristal, sont peut-être plus en mesure de contrôler leur consommation. Par contre, quand on implique des stimulants comme le cristal meth, une drogue puissante qui dure longtemps et qui a des effets sur le cerveau, c'est souvent plus difficile de garder un équilibre et d'avoir une consommation récréative. Cela dit, certains le font. On remarque aussi qu'une personne avec une vie plus structurée, avec une job à temps plein, qui étudie ou qui fait du sport régulièrement, va être tellement organisée, même dans ses downs, qu'elle va continuer quand même ses activités. Quelle devrait être la réponse de la communauté aux enjeux du chemsex? Offrir du soutien, de la communication et de l'empathie. On gagnerait à se montrer plus attentif envers nos amis, car il y a généralement des signes permettant de s'apercevoir de ce qui se passe. Peut-être qu'on pourrait être plus ouvert à militer pour ces services-là. Notre communauté a longtemps eu l'habitude de se faire entendre, mais on commence à perdre ses réflexes. Quelles sont les principales idées préconçues à propos du chemsex? Je pense aux anciennes campagnes de peur du crystal meth, où on voit une personne qui n'a plus de dents dans la bouche. Ça suffit. Ce n'est pas vrai que tu vas consommer du cristal et perdre toutes tes dents. Aussi, c'est faux de dire que tu vas automatiquement finir à la rue. Et on doit arrêter de dire que tout est perdu pour les personnes qui consomment, ou encore que ça ne nous concerne pas. Je vois des gens de tous les milieux qui ont de très bons emplois et qui ont besoin d'aide. Quelles sont les informations trop méconnues à propos du chemsex? Le grand public doit comprendre que la consommation sexualisée dans la communauté queer part de l'époque où on devait se cacher pour se rencontrer. On devait se rendre dans des endroits clandestins où on retrouve souvent des transactions de drogue. Aussi, encore de nos jours, quand on grandit avec l'impression d'être inadéquat en raison de notre orientation sexuelle, ça laisse des traumas, même si on finit par l'accepter à l'âge adulte. C'est pour ça que la consommation prend autant de place dans la communauté. En plus, nous sommes moins centrés sur le fait d'avoir des enfants, on a moins de responsabilités, on a plus de liberté dans nos temps libres. Tout ça explique pourquoi le phénomène du chemsex est présent. Si on ne prend pas ça en considération, on ne pourra jamais vraiment comprendre. Info, page web, methetreality.com, methetreality.com et Clinique médicale urbaine du quartier latin à cmuql.com. C'était « Comprendre les origines du chemsex pour moins juger ». Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle parue le 25 mars 2025 dans le magazine Fugue.
Ça se jette aux toilettes ou pas? Un texte commandité paru le 17 mars 2025 dans la presse. Après des années de sensibilisation, il est relativement bien connu que les articles d'hygiène féminine, les couches pour bébés, la vieille peinture et les résidus domestiques dangereux ne vont pas aux toilettes. Mais saviez-vous que de nombreux autres déchets, en apparence inoffensifs, peuvent causer d'importants problèmes aux installations septiques de toutes sortes? Testez votre savoir sur le sujet en indiquant si les objets suivants peuvent aller dans la toilette ou non. 1. Mouchoir. Non. Les manufacturiers innovent pour offrir des mouchoirs résistants qui gardent vos doigts propres pendant l'utilisation. Cette même qualité fait en sorte que ce type de papier tend à s'agglutiner dans les conduits et nuit à la circulation. Tout papier autre que celui de toilette, y compris les serviettes de table et les emballages, va plutôt aux ordures ou au recyclage. 2. Soie dentaire. Non. La soie dentaire est généralement faite de nylon ciré ou de polymère thermoplastique, des composés non solubles. Lorsqu'elle est jetée dans les toilettes, ses fils délicats s'accrochent et s'enroulent aux autres matières évacuées, ce qui peut alors obstruer les conduits. La soie dentaire qui échappe aux mécanismes de filtration et se retrouve dans les plans d'eau pose aussi un risque pour la santé animale. 3. Lingette mention jetable dans les toilettes humides avec mention « jetable dans les toilettes » Non. Les manufacturiers peuvent annoncer qu'un produit est jetable dans les toilettes s'il peut physiquement circuler dans la plomberie du domicile sans causer de problème. Or, c'est lorsqu'elles aboutissent dans l'égout municipal ou la fosse septique que ces lingettes, en raison de leurs fibres synthétiques hautement résistantes, s'entassent et nuisent au traitement de l'eau. 4. Restes de table. Non. En refroidissant, les huiles et les graisses contenues dans les aliments se solidifient et créent des obstructions. À l'échelle des grandes villes, ce phénomène favorise la formation de « fatbergs », d'énormes amas graisseux qui emprisonnent d'autres déchets ménagers et qui bloquent progressivement les canalisations. 5. Médicaments expirés. Non. Le danger n'est pas ici d'obstruer les conduits, mais plutôt d'intoxiquer la faune aquatique et de polluer les sols. Les fosses septiques et les systèmes municipaux ne sont pas conçus pour éliminer les traces de produits pharmaceutiques. Il a d'ailleurs été démontré que même à faible concentration, les pilules contraceptives jetées aux toilettes peuvent perturber le comportement des poissons, tandis que les antibiotiques favorisent la prolifération de bactéries résistantes. 6. Excréments d'animaux. Non. Les excréments d'animaux peuvent contenir des parasites et des bactéries qui échappent au traitement des eaux, tels que l'agent infectieux Toxoplasma gondii chez les chats. Les selles animales tendent aussi à être fortement concentrées en fibres et possèdent une chimie différente de celle des humains, ce qui peut nuire à leur élimination. Jetez-les plutôt aux poubelles. 7. Papier de toilette. Oui, il est bien sûr possible de jeter le papier de toilette dans la cuve car il est spécialement conçu pour se désagréger facilement dans l'eau. Il est cependant préférable d'éviter les produits très épais si vos équipements sont reliés à une fosse septique. Puisque ce type de papier nécessite plus de temps pour se décomposer, il présente un risque accru d'accumulation. Égouts municipaux et fosses septiques, même recommandation? Bien que le système d'égout d'une grande ville soit plus sophistiqué et résilient que la fosse septique d'un chalet éloigné, il est appelé à traiter un volume de matière beaucoup plus élevé. Un oubli occasionnel ou les restants d'une unique assiette ne poseront pas de problème. Mais c'est autre chose quand des milliers de personnes en font une habitude. Voilà pourquoi tout ce qui devrait disparaître en tirant la chasse d'eau, c'est du papier de toilette. D'autant plus qu'il y a encore plusieurs municipalités de la province qui rejettent leurs eaux usées directement dans la nature. C'était « Ça se jette aux toilettes ou pas ?» un texte commandité paru le 17 mars 2025 dans la presse.
Un nouvel appareil pour soulager la douleur chronique suscite de l'espoir. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 9 avril 2025 dans Le Devoir. Certaines personnes qui souffrent de douleurs chroniques pourront désormais avoir accès à un appareil qui permet de soulager leurs maux en temps réel. Ce dispositif qui stimule la moelle épinière a récemment été implanté pour la première fois chez un patient au Québec. Avec cette nouvelle technologie, on espère que les patients auront une meilleure qualité de vie et seront mieux soulagés, souligne la docteure Alexandra Simard, anesthésiologiste travaillant au Centre de traitement de la douleur chronique du CHU de Québec Université Laval. En mars 2025, avec son équipe, elle a implanté cet appareil nommé Inceptive MC à un sexagénaire qui souffrait de maux de dos chroniques après une chirurgie. Le Québec a ainsi emboîté le pas à la Colombie-Britannique, qui a installé cet appareil pour la première fois à un patient fin décembre 2024. Le dispositif en question est muni de deux fils placés dans la colonne vertébrale et connectés à une petite batterie qui est posée au bas du dos. L'appareil envoie des impulsions électriques pour moduler le signal de la douleur qui se rend jusqu'au cerveau, explique la docteure Simard. Les stimulateurs électriques de moelle épinière existent depuis déjà un moment, soulève la médecin. Or, avec les anciens modèles, le patient doit utiliser une télécommande pour augmenter ou diminuer l'intensité de la stimulation, soulève-t-elle. Certains patients nous racontent que lorsqu'ils font certaines activités, ils mettent la stimulation électrique en pause car elle devient trop forte. Le nouveau dispositif, lui, s'adapte toutefois selon la position et les mouvements du patient, affirme-t-elle. Il analyse en continu les signaux des neurones dans la moelle épinière et ajuste lui-même en temps réel la stimulation pour éviter l'inconfort que peuvent provoquer certains gestes. De l'espoir. Au Québec, on estime qu'environ une personne sur cinq souffre de douleurs chroniques, c'est-à-dire de douleurs qui persistent ou reviennent fréquemment durant 3 mois ou plus. Ce ne sont cependant pas tous les patients qui vivent avec ce problème qui pourront bénéficier du nouveau dispositif, nuance la docteure Alexandra Simard. La stimulation électrique fonctionne davantage pour soulager un certain type de douleur qu'on qualifie de neuropathique. Il s'agit d'une souffrance qui provient d'une blessure ou d'un trouble en ce qui concerne le système nerveux. Ensuite, les dossiers seront évalués par les médecins, infirmières, psychologues et pharmaciens. C'est un gros processus pour sélectionner les patients, ajoute-t-elle. Le nouveau stimulateur électrique de moelle épinière est tout de même un outil de plus dans le coffre des professionnels de la santé, se réjouit Pierre Genet, président de l'Association québécoise de la douleur chronique. « Je suis une personne qui vit avec cette condition, donc, moi comme bien d'autres, je suis toujours à l'affût des avancées qui pourraient nous aider », raconte-t-il en entrevue. Certaines personnes qui vivent avec ce problème doivent faire des deuils, poursuit M. Genet. Dans mon cas, j'ai dû cesser de travailler. Il y a aussi des couples qui se séparent. Donc, tant mieux si l'on peut avoir de bonnes nouvelles comme celle d'un nouvel appareil prometteur. C'était un nouvel appareil pour soulager la douleur chronique suscite de l'espoir. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 9 avril 2025 dans Le Devoir.